Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bienvenue à tous si vous nous retrouvez dans Europe Soir, toujours en direct de Roland-Garros, dont Europe 1 est la radio officielle pendant cette quinzaine exceptionnelle. Le journal, évidemment, dans quelques secondes avec Isabelle Millet. 19h15, le Club des Idées, entretien au long cours ce soir avec Franz-Olivier Gisbert pour son livre passionnant sur Bernard Tapie. Ça s'appelle Leçon de vie, de mort et d'amour. C'est à découvrir tout à l'heure dans quelques instants. Et puis 19h40, Service Pioline, notre rendez-vous quotidien pour tout savoir sur les résultats de Roland-Garros et les infos coulisses avec Cédric Pioline et toutes les équipes sport d'Europe 1. Voilà pour le programme. D'abord le journal avec Isabelle. 19h, belle soirée à l'écoute d'Europe 1.
On est ému, hein? En vrai, un petit peu. En plus, l'intérieur est super beau. C'est bête et bateau, mais ça rend heureux. Hein.
C'est un nouveau symbole de la vie qui reprend. L'Olympia, la mythique salle de spectacle parisienne, rallume les néons et monte le son ce soir pour sa réouverture après 7 mois de silence.
L'homme qui a giflé mardi Emmanuel Macron dormira ce soir en prison. Il a été condamné à 18 mois de prison, dont 4 fermes.
Le drame avait entraîné une vaste mobilisation et l'organisation du Grenelle des violences conjugales. Ouverture à Bastia aujourd'hui du procès du meurtre de Julie Douib en 2019.
Emmanuel Macron annonce ce soir la fin de l'opération Barkhane au Sahel dans le cadre d'une transformation profonde de la présence militaire de la France dans la région.
Et puis l'UEFA demande à l'Ukraine de changer de maillot à la veille du coup d'envoi de l'Euro, au motif qu'en foot, on ne doit pas faire passer de messages politiques.
La météo avec Anissa Haddadi, toujours cette vigilance orange en cours dans l'Ain, Anissa.
Oui, un orage violent a touché la ville de Nantua, les cumuls d'eau sont importants, les conditions de circulation très difficiles dans la région. Demain, la journée sera estivale partout, je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et ça fait 7 mois donc que l'Olympia, la célèbre salle parisienne aux lettres rouges sur sa façade, n'avait pas accueilli de concert en public, autant dire que c'est un événement.
Oui, car ce soir, ça y est, Angèle Châtelier, artistes et spectateurs sont bel et bien de retour.
Oui, là je me trouve justement devant ces fameux néons rouges qui annoncent le programme. Ce soir c'est le festival des Inrock. Le groupe Catastrophe va commencer dans quelques minutes. Alors ce qui change évidemment c'est le pass sanitaire. Les consignes sont affichées dès l'entrée. Il y a 4 files pour éviter les regroupements. Tout le monde doit montrer un test négatif ou un certificat de vaccination. J'ai pu rencontrer Pauline, une spectatrice qui a presque oublié de s'en occuper tellement elle était impatiente.
On a dû faire des tests Covid avant qu'on n'avait pas fait. Donc oui, on est un petit peu en avance mais c'était une longue en cours cet après-midi. Mais du coup, voilà, on est là. On est ému, hein. En vrai, un petit peu. En plus, l'intérieur est super beau. C'est bête et bateau, mais ça rend heureux, hein. Heureuse. Vraiment. D'un côté, j'ai l'impression que ça s'est jamais arrêté. Et du coup, que c'est encore mieux qu'avant.
Et j'ai pu constater le même enthousiasme du côté des équipes de l'Olympia, celui du directeur général Laurent de Cerner, par exemple.
Tout le monde est dans les starting blocks, donc ça a été voilà, une longue parenthèse, pas forcément enchantée. Mais on est prêt à repartir.
À repartir, oui, mais avec une jauge réduite. Ce soir, il n'y a que 1200 spectateurs dans la salle. En jauge debout, d'habitude, ils sont 2800. Et puis, il va falloir mettre les bouchées doubles. Désormais, l'Olympia accueille habituellement 320 spectacles par an. Là, nous sommes le 10 juin et ce n'est que le premier. Et on espère pas le dernier.
Merci Angèle Châtelier depuis l'Olympia pour cette soirée de réouverture. La vie qui reprend, mes attentions, n'a pas encore gagné tout à fait le combat contre le Covid. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, estime effectivement que le niveau de vaccination en Europe est insuffisant.
Loin d'être suffisant, en tout cas pour éviter une résurgence de l'épidémie, l'OMS qui appelle à éviter de commettre les erreurs de l'été dernier, où l'on avait assisté à une remontée des cas. AXA débloque 300 millions d'euros pour dédommager 15 000 de ses clients restaurateurs. Démarche d'apaisement annoncée ce matin sur Europe 1. En échange, les restaurateurs concernés sont priés d'oublier toute velléité d'action judiciaire.
C'est un procès hautement symbolique qui s'est ouvert aujourd'hui en Corse.
Celui du meurtrier présumé de Julie Douib. La jeune femme avait été tuée par son ex-compagnon Bruno Garcia en mars 2019. Ce drame est à l'origine du Grenelle sur les violences conjugales et d'une libération de la parole. Marion Dubreuil, vous avez suivi cette première journée d'audience qui a été consacrée aux auditions des enquêteurs ainsi qu'aux motivations de l'accusé.
Le mobile, c'est la jalousie. Pour la directrice d'enquête, cela ne fait pas de doute. Julie Douib avait un nouveau compagnon. L'accusée ne l'a pas supporté. À la barre, la voix de cette gendarme s'éraille quand elle raconte les violences, les brimades, le harcèlement. Julie avait monté tout un dossier, 37 photos de ses bleus sur les bras, le dos, 57 vidéos de scènes de dispute dans lesquelles on entend Bruno Garcia la traiter de débile, de mongole, de tapin. Dans son box, l'accusée trépigne. Le père de Julie quitte la salle. Sa mère essuie des larmes. Au même moment, les plaintes de Julie étaient classées sans suite, pas suffisamment caractérisées. Jamais de son vivant, se justifie l'enquêtrice, nous n'avons eu accès à ces éléments. Les deux jours qui précèdent le meurtre, Bruno Garcia est de plus en plus menaçant. Le vendredi soir, il rôde autour du domicile de Julie. Le samedi, il la suit au cinéma. Elle est terrorisée. L'accusé se confie à son beau-frère. Julie a refait sa vie, elle m'a menti, on ne me prend pas pour un con. Il lui montre un pistolet et tire en l'air dans son jardin. Le beau-frère tente de le dissuader. Ne fais pas ça, pense à tes enfants. Le lendemain matin, Bruno Garcia se rend chez Julie et tire sur elle à deux reprises.
Marion Dubreuil qui suit pour Europe 1 ce procès aux assises de Bastia.
C'est l'une des informations de la soirée. Emmanuel Macron annonce donc la fin de l'opération Barkhane au Sahel.
Nous amorcerons une transformation profonde de notre présence militaire au Sahel, dont la modalité et le calendrier seront précisés dans les semaines à venir. Cette transformation se traduira par un changement de modèle. Il impliquera le passage à un nouveau cadre, c'est-à-dire la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération extérieure, pour permettre une opération d'appui, de soutien et de coopération aux armées des pays de la région qui le souhaitent, et de la mise en œuvre d'une opération militaire et d'une alliance internationale associant les États de la région et tous nos partenaires, strictement concentrés sur la lutte contre le terrorisme.
Emmanuel Macron, ce soir, qui annonce par ailleurs qu'il rencontrera le président turc Erdogan juste avant le sommet de l'OTAN.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous dans quelques secondes, la suite du journal. 18 mois de prison, dont 4 fermes pour l'homme qui a giflé Emmanuel Macron, on en parle.
Et puis à la veille du coup d'envoi de l'euro, l'UEFA demande à l'Ukraine de changer de maillot. On vous expliquera pourquoi.
A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal 19h07. L'homme qui a giflé Emmanuel Macron dans la Drôme était donc jugé aujourd'hui en comparution immédiate à Valence. Et il a été condamné à 18 mois de prison, dont 4 fermes.
Avec mandat de dépôt, ce qui veut dire que Damien Tarel a été conduit directement en prison. Jean-Luc Boujon, l'homme a totalement assumé et même revendiqué son geste.
Oui, alors à un moment, il a qualifié son geste d'acte regrettable qu'il ne referait pas, mais dans le registre des remords, ce fut à peu près tout. Pour le reste, Damien Tarel, qui s'est défini comme gilet jaune et patriote, a expliqué que mardi dernier, il s'était senti investi d'une mission, celle d'agir au nom de ceux qu'on n'entend pas, au nom du peuple français. Il a raconté qu'il n'avait rien préparé, mais que quand le président de la République s'est présenté devant lui pour lui serrer la main, il avait été pris d'une pulsion. « Je n'ai pas aimé son sourire menteur qui voulait faire de moi un électeur potentiel », s'est-il justifié dans un discours souvent alambiqué au relent conspirationniste. Un jeune homme qui, à l'audience, a poursuivi sa critique du chef de l'État, la déchéance de la France selon lui, et qui n'a pas nié ses sympathies pour la droite et même l'extrême droite. À l'énoncé du jugement, 4 mois de prison ferme et mandat de dépôt immédiat. Damien Tarel, jusque-là calme et déterminé, a semblé accuser le coup, cherchant ses proches du regard, notamment sa petite amie, qui, elle, a fondu en larmes en voyant le jeune homme menottes au poignet.
Merci Jean-Luc Beaujon. À Valence pour Europe 1, après Volkswagen, après Renault, après Peugeot, Citroën à son tour mis en examen en France dans l'enquête sur la fraude au contrôle anti-pollution des anciennes générations de moteurs diesel.
Dans l'actualité également ce soir, cette polémique à la veille du coup d'envoi de l'Euro.
L'UEFA demande à l'Ukraine de changer de maillot et là on n'est plus dans le sport mais bien dans la politique, Simon Rubin.
Oui, c'est ça. Alors, au cœur de la polémique, il y a donc ce maillot ukrainien qui comporte deux originalités. D'abord, brodé au niveau du cœur, le tracé des frontières du pays, des frontières qui incluent la Crimée, pourtant annexée par la Russie en 2014. Et puis, à l'intérieur du col, ces mots sont brodés « Gloire à l'Ukraine, gloire aux héros ». Ce sont en fait les paroles d'un chant patriotique nationaliste qui est très repris ces dernières années par les opposants ukrainiens à la Russie. Voilà qui n'a donc pas plu du tout à Moscou, et dans un courrier à l'UEFA, la Russie demande le retrait de ces paroles de chanson, estimant que ce chant, très repris aussi pendant la Seconde Guerre mondiale contre l'Union soviétique, est apparenté à un chant de soutien à l'Allemagne nazie. Voilà pourquoi l'UEFA a demandé à l'Ukraine de faire retirer ces paroles de son maillot. Mais alors attention, c'est peut-être pas fini parce que les Ukrainiens tentent en ce moment de négocier. Pas simple, parce qu'en foot, comme en géopolitique, l'influence de l'Ukraine ne pèse pas lourd face à la puissance de la Russie.
Merci Simon. Le coup d'envoi de l'Euro, c'est demain et ce sera à vivre tous les soirs en direct sur Europe 1.
Oui, l'entrée en lice des Bleus, ce sera mardi à Munich face à l'Allemagne. Emmanuel Macron est venu leur souhaiter bonne chance aujourd'hui à Clairefontaine. À Roland-Garros, on a 2 Français en finale.
Europe 1, radio officielle de Roland-Garros.
Nicolas Mahut et Pierre Hugerbert se sont qualifiés pour la finale du double en battant la paire colombienne. Les deux joueurs vainqueurs de la compétition en 2018 espèrent réitérer l'exploit cette année. Ils affronteront samedi en finale des Russes. Et puis chez les femmes, la Russe Pavliouchenkova se qualifie elle aussi pour la finale. C'est la première fois de sa carrière. Elle affrontera la Tchèque Krejcikova ou la Grecque Sakkari qui sont actuellement sur le court. La Tchèque a remporté le premier set, mais la Grecque s'est imposée dans le deuxième.
Pour jouer et tenter de gagner vos places pour la finale de Roland-Garros, envoyez dès maintenant tennis au 739-21. 75 centimes plus coût d'un SMS. Deux SMS pour jouer.
Un dernier mot encore pour vous dire que le PSG recrute le milieu de terrain Georgino Wijnaldum qui est libre après 5 années à Liverpool où l'international néerlandais a notamment remporté la Ligue des Champions. C'est un recrutement d'envergure hein, pour le club parisien qui a réussi à attirer ce joueur très convoité pour renforcer son entrejeu, souvent considéré comme son maillon faible ces dernières années.
Merci Isabelle, merci à vous. La météo. La météo avec Anissa Haddadi, une fin de semaine estivale Anissa au programme.
Oui, on aura vraiment une belle journée demain après la dissipation des nuages bas au bord de la Manche. Le soleil s'impose partout, vous allez pouvoir en profiter et en plus de ça les températures grimpent encore demain. 13 à 23 degrés le matin, nous aurons déjà 17 degrés sur Paris et 23 à Perpignan. 23 à 34 degrés au meilleur de la journée, 29 dans la capitale, 30 degrés à Bordeaux, 31 à Carcassonne, 32 pour Avignon, 34 à Nîmes. Les orages éclatent sur les reliefs, soyez prudents sur les Pyrénées, les Alpes et le Massif central. Et puis je vous rappelle que nous avons toujours le département de l'Ain placé en vigilance orange orage fort. La ville de Nantua est actuellement inondée. Les déplacements sont difficiles et soyez prudents parce que quand il y a une vigilance orange, en fait, on vous recommande de ne surtout pas vous déplacer. Vigilance orange jusqu'à 20h normalement.
Voilà, prudence donc si vous habitez ou si vous circulez dans le département et la région. Merci Anissa.
Europe 1, Julien Bugier.
19h12, vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques secondes pour parler de Bernard Tapie, formidable ouvrage de Franz-Olivier Gisbert qui est notre invité ce soir. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, dans le débat du Club des Idées, on va donc s'intéresser à Bernard Tapie, raconté par le journaliste et écrivain Franz-Olivier Gisbert, qui publie un ouvrage sur l'homme d'affaires, ouvrage absolument passionnant, intimiste aussi. Ça s'appelle Bernard Tapie, leçon de vie, de mort et d'amour aux éditions Les Presses de la Cité. Bonsoir Franz-Olivier Gisbert.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous dans Europe Soir, ici d'ailleurs en direct de Roland-Garros, ouais. Qui a retrouvé son public, ça fait du bien. Alors, c'est vraiment un livre particulier, d'abord parce que Bernard Tapie est une personnalité évidemment unique, qui suscite aussi beaucoup d'intérêt, beaucoup de sympathie aujourd'hui de la part des Français, ouais. Et qui a une vie absolument romanesque. Est-ce qu'on peut dire que c'est un ami à vous maintenant ?
C'est pas ce que je dirais, c'est compliqué, mais enfin, c'est un mot ami, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup.
Oui.
J'aime beaucoup et
je pose la question
ce livre parce que je l'aime beaucoup.
Il y a une forme de fascination que vous assumez puisque vous le dites dans l'ouvrage.
Bah, c'est difficile de pas être fasciné par quelqu'un qui se bat de la sorte contre les monstres froids de l'État à travers la justice et contre le cancer. Quoi. On est fasciné par le courage, par la force.
Parce que vous commencez comme ça, Franz-Olivier Gisbert, c'est aussi l'histoire d'un battant. Dans le prologue, vous dites, qui évolue d'ailleurs aussi avec son époque, tour à tour chanteur, vendeur de télé, on va en parler, patron, entraîneur de foot, député, ministre, acteur, et puis la maladie, et les affaires évidemment. Vous racontez que Bernard Tapie, je ne le savais pas, refuse de prendre des antidouleurs. Il souffre de martyr, mais refuse de prendre des antidouleurs pour ne pas baisser la garde, dites-vous, face à l'ennemi.
Ouais. Et c'est ça qui est fascinant. Et il souffre le martyr, mais il tient. Il tient, et d'ailleurs, après son opération, qui était une opération très lourde, là, quand on lui a enlevé une grande partie de l'estomac et la moitié de l'œsophage, c'est vrai que il a pas pris, vous savez, la petite pompe à morphine que vous avez après une grosse opération, je sais pas si ça vous est
trop... Ça m'est déjà arrivé
oui. Bon, et ben cette pompe à morphine, je crois qu'il l'a utilisée deux fois et c'était terminé après. Après, il a tenu face.
Qu'est-ce qui vous fascine, vous, le plus, chez Bernard Tapie ?
Je dirais, d'abord, la vie. Hein, c'est parce que c'est 1000 vies. Vous avez très bien dit, c'est un roman, en fait. Parce qu'il y a sans arrêt des rebondissements. On ne sait pas très bien comment les choses arrivent. Parce que toutes ces vies, il les a eues, elles sont arrivées vers lui. Ce n'est pas lui qui est allé. Vous voyez, par exemple, il se lance dans le vélo. Pourquoi ? Parce que Bernard Arnault, qui a des problèmes avec son équipe, vient le voir et demande un rendez-vous, disant, tiens, ça ne vous intéresse pas. Enfin, il n'y a aucune raison, vous voyez, qu'il se lance dans le vélo. Et finalement, oui, il tombe amoureux de Bernard Arnault. Il se dit, ce type est formidable et tout. D'ailleurs, c'est évidemment, c'est un énorme champion. Il comprend. Et il est à l'époque, il a une blessure qui est très handicapante et une histoire de tendinite, évidemment, oui. Comme souvent avec les cyclistes. Et il croit qu'il va peut-être qu'il va le remettre sur le podium. Et il réussit. C'est la dernière fois qu'un Français gagne le Tour de France.
Hein. Alors, ce qui est intéressant.
Après le foot, c'est pareil. Tout est pareil.
C'est vrai.
C'est-à-dire, il va d'un truc à l'autre. Oui. On lui propose, il fait. Puis, d'une certaine manière, quand ça a marché. Il va ailleurs.
Et puis vous racontez l'épisode du Phocéa aussi, la traversée de l'Atlantique, on va en parler ça, parce que c'est intéressant et moi j'étais passé complètement à côté de cette histoire, peut-être étais-je un peu jeune. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi d'écouter Bernard Tapie, qui avait été invité il y a bien bien longtemps, à ce micro d'Europe 1, dans l'émission Les numéros 1 de demain, au micro à l'époque d'Olivier de Ringsin, c'était un 21 décembre 1983.
Ce qui est vrai, c'est qu'à un moment donné, on a pour réussir besoin d'un moteur. Parce que sans moteur, on est très vite découragé ou au moindre obstacle, on baisse les bras. Je fais partie de ceux qui, toujours, ont l'envie de se remettre en cause, ont l'envie de démontrer davantage. Et puis, c'est vrai que les quelques opérations que j'ai pu faire, qui étaient critiquées par l'establishment, par les gens bien en place, m'ont donné envie de leur démontrer qu'ils se trompaient. Et ne serait-ce que l'envie de démontrer qu'ils se trompaient vous donne des forces incroyables.
Alors moi, il y a une histoire sur laquelle je voulais revenir à propos de sa réussite que vous racontez, parce que je pensais que c'était une légende, la légende des télévisions. Un jour, un commercial frappe à sa porte, il est tout jeune, il glandouille, comme il dit, pour tenter de lui vendre une télé. Et Bernard Tapie lui répond, mais mon cher monsieur, vous vous y prenez comme un manche, venez avec moi, je vais vous montrer. Alors là, il y a tout le génie de l'homme. Il frappe à la porte d'un voisin, se fait passer pour un sondeur qui fait une enquête sur les programmes télé. Alors la dame lui dit, j'ai pas de téléviseur. Alors Bernard Tapie lui répond, qu'à cela ne tienne, on va vous laisser une télé. Et puis je repasse dans 15 jours. Évidemment, quand il repasse 10 jours plus tard, la dame veut acheter la télé parce qu'elle trouve ça formidable.
Bien sûr.
Je pensais que c'était une légende, en fait, tout est vrai.
Ben oui, mais sans arrêt, il a des idées comme ça. C'est-à-dire, ça va très vite, hein. Et il passe rapidement, d'ailleurs, d'un sujet à l'autre. On a l'impression, c'est une intelligence qui frappe. Et c'est comme ça qu'il a révolutionné des tas de choses. Que vous regardez, par exemple, regardez quand il achète la vie claire.
Oui.
Le bio, ça n'existe pas, ça n'intéresse personne. Il est déjà fasciné complètement par le bio, il se lance là-dessus. Voilà. Regardez, il achète Look. Hein il reprend Look qui va très mal. Il reprend
c'était Look. Sa spécialité, reprendre sa spécialité. Des groupes qui n'allaient pas bien.
Qui n'allaient pas bien, enfin pire que ça. Enfin, parce que quand il prend les boîtes, elles sont mortes.
Oui.
C'est-à-dire s'il les prend pas,
personne. Et puis il les relance.
Oui, c'est ça. Personne ne les prend.
Mais vous
voyez, c'est-à-dire que quand il arrive, la boîte, elle va fermer.
Est-ce que vous êtes d'accord, François-Olivier Gisbert, pour dire qu'il y a quand même un truc dans le monde des affaires qui le caractérise? Il a un sens des affaires inné, c'est un génie des affaires, mais il y a un côté un peu margoulin aussi dans la manière dont il mène ses affaires.
C'est pas ça. C'est, je pense que il y a plus. Vous savez, c'est toujours le petit gars de la Seine-Saint-Denis. Il faut jamais oublier ça. Il est resté le petit gars de la Seine-Saint-Denis. C'est un moment important. Il vit ses premières années de sa jeunesse dans un taudis en face d'un parc sportif.
Oui.
Où là, il va découvrir le sport et le sport va le changer. Quoi, c'est clair. Il y a plusieurs choses qui vont changer. L'armée aussi va le changer. On voit très bien d'ailleurs les dégâts que ça a fait la suppression du service militaire, c'est-à-dire qu'il se rend compte, il arrive chez les officiers, parce qu'il voulait pas être officier d'ailleurs, mais il a passé bien les examens, il arrive, et puis là il se rend compte que finalement, attendez, je suis pas plus con que les autres moi, pourquoi je ferais pas? Vous voyez, ça change complètement sa mentalité. Donc c'est l'histoire du type qui est le dernier de cordée, et qui va remonter pour arriver à être l'un des premiers de la cordée.
Alors il y a l'épisode du Phocéa, je le disais.
Oui.
Magnifique 4 mâts, 72 mètres, qu'il achète pour
tout ça fait en France, hein, d'ailleurs.
Oui, absolument. Qui a brûlé depuis, malheureusement.
Oui, oui.
Qu'il achète pour se lancer dans un record de la traversée de l'Atlantique avec une équipe de 19 professionnels. Et alors là, vous racontez, c'est ce qu'il vous a dit. Il part des États-Unis, le vent tombe, une tempête menace, bref, rien ne va plus, le capitaine n'est pas tout à fait serein. Et là, Bernard Tapie prend les commandes.
Impossible. Et parce que de toute façon, pour lui, rien n'est impossible.
Oui.
C'est-à-dire, on va toujours y arriver, on peut le faire. Vous voyez, c'est l'histoire de Marcel Pagnol. Il y avait un imbécile, tout le monde disait que c'était pas possible, un imbécile est arrivé, et puis voilà, puis il l'a fait.
Mais ce qui est formidable, c'est qu'à l'époque,
il connaît pas... D'ailleurs, attendez, c'est aussi Mark Twain qui disait ça, parce que c'est plus aussi, parfois c'est un fou l'histoire.
Oui.
Et c'est ça, c'est-à-dire qu'il fait des choses qui sont impossibles.
Oui.
Et évidemment, c'est ça. Vous disiez, qu'est-ce qui vous fascine?
Il arrive à Saint-Malo. La fin de l'histoire, c'est quand même qu'il arrive à Saint-Malo avec 4 jours de moins que Charlie Barr, qui détenait le record de la traversée depuis 1905.
Ah non, puis surtout, c'est impressionnant pour quelqu'un qui ne fait pas de la voile comme ça régulièrement comme lui. Enfin, il connaît les éléments. Quand on parle avec lui de la voile, enfin, il connaît très bien. Mais ce n'est pas un grand spécialiste, ce n'est pas Kersauzon ou Tabarly. Et c'est, on a le sentiment qu'il n'a pas éprouvé cette peur. Vous voyez, la peur que vous éprouveriez. Ou qu'on éprouverait l'un et l'autre, je pense, dans une tempête, parce que
lui, il prend les commandes et il y va.
Oui, il y croit.
Bon, il y a un petit côté Tabarly d'ailleurs. C'est marrant que vous disiez Tabarly dans la photo que vous avez choisie.
Oui, j'ai pensé aussi
pour la une de la première page du livre Franz Olivier.
On a l'impression qu'il y a du vent, il est dans le vent, vous voyez, dans la tempête peut-être.
Et puis il y a Marseille. Alors une histoire d'amour absolument incroyable. Il y a toujours une question qu'on se pose. Pourquoi n'est-il pas devenu maire de Marseille?
Il aurait pu, mais c'est justement à ce moment-là, c'est-à-dire quand vous regardez toute l'histoire de Tapie, ça va trop vite, il monte trop vite. Et à un moment donné, il va vers la politique. Pourquoi? Parce que Mitterrand dit, mais ce petit gars-là, tout à fait intéressant, venez me voir. Et puis Mitterrand essaie de l'éduquer, se dit, tiens, mais on peut peut-être en faire quelque chose. Parce que Mitterrand est un petit peu déçu par ses dauphins, Lionel Jospin.
Et puis il a besoin d'ouvrir aussi.
Il veut ouvrir et il se dit, mais ça serait pas mal, ce type, il a un tel charisme. Moi, c'est Mitterrand qui m'a dit, un jour, vous devriez le voir. Et d'ailleurs, je l'avais fait tout à fait par hasard, comme ça, je le rencontre, et il me dit, dites-moi, il y a un nouveau ministre là, vous devriez le voir, vous connaissez? Et je l'ai vu, effectivement. La politique... c'est encore les autres qui l'ont proposé. C'est Mitterrand qui lui a proposé d'être député.
Oui. Mais
ça marche très bien.
Vous racontez aussi que pas Marseille, parce que c'est sa femme qui a mis un veto.
Ah, longtemps après, quand il revient, qu'il rachète notamment la Provence, et que le bruit court, que d'ailleurs moi-même, je m'en fais l'écho, mais tu fais ça parce que tu veux devenir maire de Marseille, il dit je peux pas. Ma femme, sa femme qui joue un rôle, Dominique qui joue un rôle absolument
très important
dans sa vie. Ouais. Ah oui, c'est le pilier. Enfin, on voit très bien. Je sais pas si c'est la statue du commandeur. Je sais pas comment définir, mais c'est aussi un couple fusionnel, quoi. Elle décide tout, avec lui, bien entendu. Mais c'est quelqu'un qui est très important dans sa vie. Oui, c'est un couple très uni.
Bien, on marque une pause, François-Olivier Gisbert. Vous restez évidemment avec nous pour continuer à parler de la figure de Bernard Tapie. 19h05, on se retrouve après la pause. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Le 19h28, on est toujours avec Franz-Olivier Gisbert pour évoquer ce livre passionnant, très intime, Bernard Tapie, Leçon de vie, de mort et d'amour aux éditions Presse de la Cité. Alors on évoquait, Franz-Olivier Gisbert, l'entrée en politique de Bernard Tapie, un certain 3 avril 1992.
Le président de la République a nommé ministre vilain, Monsieur Bernard Tapie.
Voilà, il est nommé ministre de la ville et Mitterrand lui imposera de vendre Adidas. Il regrette aujourd'hui et il dit ceci dans le livre, c'est ce que vous racontez. Sacrifier un grand groupe industriel comme Adidas pour devenir ministre, c'est quand même très con, non? Puis j'ai réfléchi, plus je me dis que c'est la vanité qui m'a tué, ce n'est même pas un péché d'orgueil, non, c'est ce sentiment débile, stupide qu'on appelle la vanité.
Oui, et alors en même temps, il a corrigé ça après en me disant, une autre fois... D'ailleurs, je le cite juste après. Il dit, mais en fait, c'était quand même bien. Parce que Mitterrand m'a nommé parce qu'il pensait que là, je saurais faire et que je pouvais le faire et j'ai servi à quelque chose. Donc, il y a toujours cette espèce de... Oui, il y a à la fois lui et puis il y a toujours les autres. C'est-à-dire, il peut rien faire sans les autres. D'ailleurs, regardez son cancer. Il a son cancer, il a besoin des autres. Hein, d'ailleurs, c'est il en parle parce qu'il a besoin des autres. Puis d'ailleurs, il essaie aussi d'aider les autres. C'est-à-dire, quand il va dans les hôpitaux, voilà, je sais pas qui remue les gens, mais il leur dit, attention, les antidouleurs, les gars, allez-y, battez-vous. Voyez, c'est toujours ça, c'est une sorte de chef d'équipe.
Est-ce qu'il a été un bon ministre?
Il n'a pas trop eu le temps parce qu'il a eu beaucoup de problèmes. Tout de suite, il a été obligé de démissionner, puis à cause d'affaires qui en fait sont révélées bidons, puisqu'il a eu tous ses non-lieux. Relax, c'est fait. Bon, mais il a eu. Quand on regarde, il a fait des choses. Il a fait des choses, c'est-à-dire qu'il avait des bonnes idées, la maison du citoyen, tout ce genre de choses. Il a, puis il a dénoué des situations parce qu'il sait faire. Je pense qu'il a aimé ça. Mais bon, si vous voulez, dès qu'il est apparu en politique, la droite. Qui arrivait au pouvoir a tout fait pour le détruire. Oui. C'était la période Balladur, quoi. C'était juste incroyable. Ils l'ont mis en faillite, etc.
Dépoussiéré la manière de faire de la politique.
Non, parce qu'il apprenait. C'était encore un stagiaire. Et, oui. Et Mitterrand essayait de lui apprendre. C'est Mitterrand, il ne faut pas oublier, c'est toujours un pygmalion. C'est essayer d'apprendre. Donc, je raconte tout ça. C'est des choses qu'on pourrait peut-être trop raconter, d'ailleurs, jusqu'à présent. Mais Mitterrand lui dit, il faut dire ça, et puis il faut dire ceci. Et puis, ah, c'est pas bien, les électeurs du Front National, surtout ne les insultez pas. Il faut les amener à venir vers vous.
Est-ce que Mitterrand l'instrumentalisait ou il aimait vraiment le personnage Bernard Tapie?
Alors, moi, j'ai eu des conversations avec Mitterrand, parce que je voyais quand même souvent, j'ai beaucoup écrit sur lui. Et non, il était intéressé par Tapie. Non,
il aimait, c'est clair. Il aimait
oui,
le bonhomme.
Oui. D'ailleurs, il l'a appelé quand il était au fond du trou après l'affaire de l'OMVA. Il appelle au téléphone. Enfin, il lui dit toujours, tenez bon. Oui. Vous, enfin, dans le genre, le pays a besoin de vous.
Bien alors, il y a quand même des déclarations qui sont restées célèbres. Écart de langage ou vraie sincérité politique quand il dit le 29 janvier 1992 au micro européen d'un certain d'ailleurs François Baroin ceci.
Le problème, c'est qu'on ne peut pas le battre en menant des discours qui consistent à dire « Le Pen, c'est un salaud !» Mais pas les électeurs. Parce que les électeurs y souffrent. On peut le comprendre. Mais comment peut-on tenir des discours pareils? C'est parce qu'on déculpabilise ceux qui se trouvent une bonne raison qu'on a un Front National si fort. Car si Le Pen est un salaud, ceux qui votent pour eux sont des salauds.
Il dirait ça encore aujourd'hui?
Écoutez, c'est intéressant cet extrait-là parce que ça avait beaucoup énervé Mitterrand.
Oui.
Et il a continué. C'est-à-dire que Mitterrand ne l'instrumentalisait pas puisque Mitterrand simplement essayait de lui apprendre la politique. Et lui, on voit très bien, il avait des convictions et ces convictions-là, voilà, il passait pas par-dessus, quoi. Il refusait de céder. Il a pas cédé sur cette affaire, même s'il avait beaucoup d'admiration pour Mitterrand.
Aujourd'hui, est-ce qu'il redirait ça aujourd'hui?
Je crois qu'il le dirait pas de la même façon, non.
Ouais.
Non, de toute façon, excusez-moi, mais le Front National, c'est plus pareil. Enfin, faut pas raconter d'histoire. Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen, c'est pas tout à fait la même chose, quand même. Je pense qu'on peut pas dire ça. Donc, on n'est pas du tout dans la même situation.
Alors, il y a aussi des petites choses que vous racontez que j'aime bien parce que ça délivre une autre facette de la personnalité de Bernard Tapie. Derrière sa gouaille, un homme qui aimait aussi profondément les gens. Vous racontez avec une certaine ironie d'ailleurs que celui qui incarnait le tout pour ma gueule à l'époque, c'est comme ça que vous le dites, recevait chaque semaine des Français du quotidien parler avec
eux. C'est dingue, mais pourquoi tout le monde ne fait pas ça? C'est
une commerçante, facteur, une avocate, un quoi. Pendant une heure, il les recevait. Et alors,
il appelle ça le mardi des chieurs.
Le mardi des chieurs.
C'est les chieurs qu'il a rencontrés, qui lui paraissent intéressants, qui ont des choses à dire, et il le critique en fait. Non. Il attend qu'on le critique. Voilà. Il veut qu'on le critique.
Et grand patron à l'époque. Et il leur demandait conseil, car il disait que dès que tu as le pouvoir et la réussite, ton esprit critique s'éloigne. Et j'avais besoin, dit Bernard Tapie, de ces gens qui me bousculaient. Incroyable.
Ah oui. Mais ça c'est tout à fait lui. C'est-à-dire, vous voyez, on a quand même quelqu'un qui avait des ressorts incroyables, qui a été détruit par le système. Moi, ce qui m'intéressait chez Tapie, je vais vous dire, j'étais pas proche de lui avant. J'avais des relations de patron de journal assez mauvaises, avec quelques hauts et beaucoup de bas, quoi. C'était un peu ça. Et puis, en fait, à un moment donné, quand tout le système, c'est-à-dire la droite dans un premier temps, après la gauche, s'est jeté contre lui pour la battre, et qu'il était à terre, et qu'en fait, quand on regarde l'affaire Adidas, c'est une escroquerie contre lui. Il a été victime d'une méga escroquerie, c'est des milliards quand vous regardez bien. Bon, et toutes les preuves sont dans le livre. Enfin, on va pas raconter l'histoire, peut-être c'est trop long, mais c'est juste un truc incroyable. Quand on regarde, quand on fait l'effort de regarder 5 minutes, c'est pour ça qu'on est toujours étonné par l'attitude de la justice, enfin, les magistrats. On voit bien.
Vous avez le sentiment, vous, qu'il y a un acharnement contre lui.
Bah évidemment. Oui. Et peut-être, c'est en train de s'arrêter, parce que je pense qu'aujourd'hui, on arrive à un moment où, vous disiez, j'étais fasciné, mais je pense qu'une grande partie est fascinée par le courage.
Oui. C'est-à-dire. L'opinion publique s'est retournée.
C'est retournée, parce qu'on voit bien.
Il y a une question précise que je voulais vous poser en parlant des affaires. OMVA, prison. D'ailleurs, vous dites, pour comprendre Bernard Tapie, il faut comprendre sa condamnation et son passage par la casse-prison. Est-ce que vous avez parce que vous n'êtes pas clair dans le livre, François-Olivier Gisbert. Est-ce que vous avez la conviction que oui, le match a été truqué?
Écoutez, quand j'ai écrit le livre, enfin au début, enfin parce que c'était une longue histoire le livre, j'avais un peu ce sentiment et après j'ai eu des doutes. C'est-à-dire, c'est vrai que quand il dit qu'à l'époque il gênait incroyablement le monde du football,
oui.
Parce qu'il passait pas, il refusait les codes,
oui.
Il voyait personne,
oui.
Il en faisait qu'à sa tête, il avait le grand club, etc.
Vous doutez,
donc
vous
il avait
doutez.
Beaucoup d'ennemis. Et donc, voilà, à partir de là, c'est vrai qu'on est toujours étonné quand on trouve de l'argent dans des sachets en plastique, dans un jardin, vous voyez, tout ça est un peu bizarre, quoi. Il y a quelque chose de
oui.
bizarre quand même dans cette affaire, vous voyez, il y a un énorme doute, et
Alors,
le doute peut lui profiter.
Il y a aujourd'hui, évidemment, la maladie. Et puis, il y a cette agression terrible dont il a été victime avec son épouse dans la nuit du 3 au 4 avril dernier. Quatre individus cagoulés qui s'introduisent chez eux, ligotés, frappés pendant près d'une heure. Sa femme est traînée par les cheveux de pièce
c'est dingue,
en pièce.
Ouais, très violent.
Et là, vous racontez que Tapie hurle à l'endroit des quatre lascars. Vous êtes des salauds. Moi qui vous ai toujours défendu, qu'est-ce que vous foutez ?
Ouais. Et on lui dit, ce temps-là a changé. Hein, parce que c'est ça. Et... écoutez, ça encore, vous retrouvez le vrai Tapie, c'est-à-dire au lieu de négocier, d'essayer d'arranger.
Oui.
Il faut dire que le comportement avec sa femme, avec son épouse,
a été terrible.
Est tellement abject que, bien entendu, il est révolté. Mais voilà, il est comme ça, tout d'une pièce. Et c'est incroyable de voir cet homme aujourd'hui dans la situation physique
oui.
dans laquelle il est, qu'on a résisté face à,
et puis vous,
à quatre
vous,
connards. Quoi.
Vous tirez le raisonnement.
Quatre salopards, plutôt.
Vous tirez la discussion avec lui sur ce que vous appelez la ségrégation de la société aujourd'hui.
Oui.
Où il est quand même dans cette rhétorique, c'était mieux avant. Et il dit ceci, ça commence à l'école. Avant, tu étais petit, tu chahutais en cours, tu te prenais une beigne du prof, et le soir, bim, ta mère, elle remettait
ça. Ah ça, je peux témoigner, moi,
aujourd'hui,
c'était comme ça, oui. C'était comme ça, moi, je suis les générations.
Aujourd'hui, tout le
un
monde
petit peu
est
après,
une victime, même les salauds.
Mais oui, mais aujourd'hui, vous avez quand même, écoutez, excusez-moi, la victimisation de la société, on entend ça à longueur
oui.
de journée, à longueur de colonne.
Mais mettre
c'est
des beignes,
que des victimes.
Mettre des beignes aux
des
enfants à longueur de journée,
victimes.
C'est pas terrible. Non,
mais attendez,
quand même,
attendez. Excusez-moi, moi j'en ai reçu, et franchement, je les avais mérités. Alors, évidemment, après, il y a la petite beigne sympa de
oui.
l'instituteur qu'au fond, j'adorais, et je le salue en passant, parce que j'avais vraiment chahuté. Et puis, je veux dire, c'était pas plus grave que ça.
Oui.
Et puis après, il y avait la gifle des parents. Voilà, c'était comme ça.
Il aimait le livre ou pas ?
Non. Mais c'est-à-dire, faut voir, Bernard Tapie, il aime pas parler de lui.
Oui.
C'est un cauchemar d'écrire ce livre parce qu'il n'aime pas parler de lui.
Terriblement
oui,
bien.
Oui, bien sûr, mais il n'aime pas parler de lui. Donc, qu'est-ce que je fais, moi ? J'essayais de faire, c'est ça le journalisme, vous savez bien, la vocation de notre métier, c'est de savoir les choses qu'on ne veut pas vous dire, etc. Donc, évidemment, je raconte des facettes qu'on n'a jamais lues, évidemment. Sa foi, sa façon d'y croire en Dieu,
oui.
il prie tout le temps, il prie sans arrêt. Son amour des animaux, le chien, par exemple, Boboy, l'histoire du chien, vous savez, quand il tombe malade et qu'il a ce
oui.
chien, qui était un énorme chien, d'ailleurs, Corso,
oui,
un gros chien qui serre dans ses bras sans arrêt, qui lui donne son énergie quand la maladie arrive.
On va être obligé de s'arrêter, François-Olivier
oui.
Gisbert. Est-ce que juste vous vous souvenez de ça, 83 ?
Qu'est-ce qui fait marcher la vie ? Qu'est-ce qui fait marcher la vie ? Qu'est-ce qui fait marcher la vie ? Qu'est-ce qui fait marcher la vie ?
Mais qu'est-ce qui vous fait marcher ?
Moi ?
C'est la pub bombée. Hein,
il aura tout fait, Bernard Tapie.
Oui, et la pub.
Terminé là-dessus.
Oui, c'est ça. Oui, oui.
Merci. On est contraint de s'arrêter, François-Olivier Gisbert. Ça s'appelle ouais. Bernard Tapie, Leçon de vie, de mort et d'amour, aux éditions Presse de la Cité. Voilà.
J'aurais pu sous-titrer aussi un roman d'aventure.
Hein, c'est passionnant.
Ou un thriller aussi. Oui,
parce merci, Franz. Merci à vous, Franz.
Europe 1, Julien Bugier.
Service Pioline dans quelques secondes en direct de Roland Garros. À tout de suite.
Service Pioline sur Europe 1. Votre rendez-vous Roland-Garros avec Julien Bugier.
Ben voilà, c'est fait. La paire Mahut-Herbert, ils sont en finale du double messieurs. On va évidemment en parler. Bonsoir Cédric Pioline.
Bonsoir.
Bonsoir Corinne Boulot.
Bonsoir Julien.
Alors on est toujours évidemment en studio Europe 1 ici à Roland-Garros en direct avec Johanna Chabas également. Bonsoir Johanna.
Bonsoir.
Qui nous fera découvrir les coulisses comme chaque soir du tournoi. Corinne, on commence évidemment avec les résultats du jour. Et notamment l'affiche de la finale dame, on va en parler. Mais d'abord, le clan français voilà. qui se console avec ce double.
Et oui, dans une ambiance de Coupe Davis. Hein. Vous l'entendez derrière moi, Pierre Hugerbert et Nicolas Mahut ont donné des frissons au public pendant presque 3 heures sous un soleil de plomb. Mené 1-7-0 et après avoir effacé 3 balles de match, le double tricolore arrache la victoire en 3 manches, 6-7, 7-6, 6-4. 5e finale en double dans un tournoi majeur pour Nicolas Mahut, 39 ans, et son cadet Pierre Hugerbert, 30 ans, qui ont remporté l'épreuve ici en 2018. Encore de belles émotions pour nos Français interrogés par Axel May.
C'est vraiment du bonheur. Déjà, on est rentré sur le court. Moi, j'ai dit à Pierre Hugues, mais attends, il me faut un peu de temps parce que j'avais des frissons. La dernière fois que j'avais des frissons comme ça sur les jambes, sur les bras, c'était en Coupe Davis. C'était vraiment incroyable. Les gens étaient là, nous ont accueillis, nous ont portés. c'était exceptionnel. Et à la fin du match, quand on nous a posé la question, déjà, j'avais oublié qu'on avait sauvé des balles de match tellement on est resté dedans du début à la fin. On avait tous les deux envie de pleurer, on s'est retenu parce que c'était fort. Tout le monde était debout, on a nos familles qui sont là, on peut pas trop les approcher parce qu'on est dans la bulle. Donc tout ça, ça rajoute un petit peu à ce tournoi qui, en plus, on a un beau temps depuis 15 jours. Les gens ont l'esprit à la fête et on le ressent comme ça.
Ouais, il y avait une ambiance de dingue, Cédric, de dingue. On s'entendait pas dans les allées de Roland Garros pendant le match. Et c'est vrai qu'il y avait un côté ambiance Coupe Davis, hein, vous qui l'avez remporté.
Oui. Alors tout d'abord, déjà bravo à eux parce qu'ils reviennent pratiquement de l'au-delà, j'ai envie de dire. Ils étaient condamnés, ils étaient out et puis ils ont réussi à retourner ce match. C'est assez rare. Effectivement, qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux pour une paire française comme eux que de jouer ici à Roland-Garros et de faire un match comme ça pour se qualifier pour une nouvelle finale, éventuellement soulever la coupe. Donc c'est quand même bravo et une ambiance incroyable avec des gens chauffés à blanc, d'autant plus qu'il fait un temps magnifique tout simplement. Oui.
Et j'ajoute, Julien et Cédric, un cerise sur le gâteau du jour, qu'il y aura un vainqueur français du tournoi junior samedi. C'est historique, 4 jeunes français sont dans le dernier carré du tournoi junior, 4 copains qui ont grandi ensemble et qui vont s'affronter en demi-finale demain.
Eh bien, c'est la relève, Cédric.
C'est génial. D'abord, comme vient de le dire Corinne, c'est historique. Ce n'est jamais arrivé, donc on a la certitude d'avoir un vainqueur français. Et puis surtout, on va se dire que sur 4 excellents juniors qui sont en demi-finale ici à Roland-Garros, il y en aura bien un ou deux qui vont vraiment percer chez les seniors et faire carrière. Bon, j'espère que dans les 2 ans, on va dire, ils devraient pointer le bout de leur nez sur le grand circuit.
L'autre info du jour, Corinne, c'est qu'on aura ce soir l'affiche de la finale dames.
Oui, alors la Russe Anastasia Pavlyuchenkova est la première qualifiée. Hein, il lui aura fallu attendre sa 52e participation à un tournoi du Grand Chelem pour y arriver. Quelle patience! À 29 ans, la 31e mondiale est la première Russe depuis Maria Sharapova en 2014 à connaître le parfum d'une finale en Grand Chelem. Elle a battu en 2-7, 7-5, 6-3 la Slovène Zidanček, 85e mondiale, dans un match où la tension de l'enjeu était perceptible.
Bon, bien sûr, je pense que tennis, c'est vraiment le sport tellement mental, 90% de mentalité. Deux fois, tu joues tellement mieux que les autres, mais tu peux toujours perdre, quoi. Donc, c'est ça ce qui est vraiment difficile en tennis, mais j'ai essayé de vraiment battre chaque balle, chaque point. Je voulais travailler le tactique aussi, parce que des fois, avec les émotions, je joue partout, quoi. Et mon frère derrière, il me dit, mais réfléchis un petit peu. Donc, oui, mais je suis contente qu'avec un peu de stress, fatigue, je pouvais gagner.
Voilà, Anastasia Pavlyuchenkova en français. Rappelons qu'elle habite à Beaulieu-sur-Mer, hein, dans les Alpes-Maritimes. La gestion des émotions, un paramètre toujours important quand on rentre dans les hautes sphères d'un tournoi majeur. Et on le voit sur cette deuxième demi-finale que vous suivez, Axel May, en ce moment sur le court châtrier.
Oui, avec d'un côté la grecque Maria Sakkari, 18e mondiale, de l'autre Barbora Krejčíková, la tchèque 33e mondiale. Et vous avez raison de souligner l'importance du mental, puisque Krejčíková a remporté la première manche 7-5. Dans la deuxième manche, Sakkari menait 4-0 et puis elle a vu Krejčíková revenir. On a même cru à un moment qu'elle allait remporter le set. Finalement, 6-4 pour Sakkari dans la deuxième manche. Et actuellement, Sakkari est mieux placée puisqu'elle mène 4-2. C'est Barbora Krejčíková qui est au service, mais elle mène 4-2 dans cette troisième manche. Et on joue, tenez-vous bien, depuis presque 2h30, avec à noter beaucoup de fautes directes. 37 fautes directes pour l'instant pour Maria Sakkari contre 48 pour Barbora Krejčíková. Et donc on verra dans quelques minutes qui s'imposera entre ces deux dames.
Bien, merci Axel. Et demain, Cédric, évidemment, le choc Nadal Djokovic.
Oui, on l'attend. Enfin, même les deux demi-finales, hein, sont de très belles affiches. Mais comme vous l'avez dit, Novak Djokovic contre Rafael Nadal, on attend ça depuis le début du tournoi. Même Djokovic l'a confirmé, hein, en conférence de presse.
Incroyable ce hurlement de Djokovic. Vous y étiez, Cédric, ah oui, hier soir. Ce hurlement, ce cri libérateur. Il a eu peur, hein.
C'était libérateur peut-être pour lui, mais glaçant pour les autres.
Oui, c'est vrai.
Moi, c'était le moment où j'allais rentrer sur le court pour l'interviewer. Je peux vous dire que
vous êtes demandé si
ça m'a un petit peu calmé. Mais non, oui, il avait besoin. Mais c'est là où on voit à quel point il y a une tension nerveuse interne, et comme il l'a dit, il avait besoin de se libérer. Alors ça a été sa manière, mais bon, C'était impressionnant.
Bien, on marque une pause, on se retrouve dans quelques secondes avec la suite de Service Pioline. À tout de suite.
Julien Bugier,
Cédric Pioline,
Roland Garros 2021,
Europe 1, radio officielle.
Oui, avec la suite de Service Pioline, dans un instant l'œil de Johanna sur les à côté du tournoi, la question qui fâche à Cédric Pioline, et on commence d'abord, Corinne, par l'info insolite du jour.
Eh bien, saviez-vous que l'un des finalistes de Roland-Garros a carrément oublié de récupérer son prize money, autrement dit le chèque qui récompense son parcours dans le tournoi? L'étourdi a pour nom Martin Verkerk. En 2003, le Néerlandais fait sensation, non tête de série, 46e mondial. Martin Verkerk se hisse en finale à la surprise générale, non sans avoir battu deux des favoris du tournoi au passage, Carlos Moya, l'actuel entraîneur et d'ailleurs de Nadal, et Guillermo Coria. En finale, dépassé par l'événement, il est surclassé par l'Espagnol Juan Carlos Ferrero, qui soulève la Coupe des Mousquetaires, et Martin Verkerk en a oublié d'aller récupérer son chèque de 420 000 euros, il faut le faire. Ça me fait penser qu'une place en demi finale permet aujourd'hui d'empocher un chèque de 375 000 euros, que le ou la finaliste empochera 750 000 euros, la gagnante et le gagnant repartiront avec un chèque d'1 400 000. Ces dotations, je le signale, sont en baisse de 15% cette année en raison des difficultés financières liées à la pandémie.
Bon, c'est des montants importants quand même tout ça, Cédric, mais ce qu'il faut rappeler, c'est vrai que le tennisman ou la tenniswoman est à la tête d'une petite PME, d'une petite entreprise.
Oui, bien sûr que comme ça, sur des chiffres bruts, ça, c'est impressionnant. Évidemment, il en reste quand même beaucoup à l'arrivée. Mais comme vous l'avez dit, d'abord il y a les impôts, les retenues à la source, même pour les joueurs étrangers, hein, il y a 15% de retenue à la source. Et après une déclaration d'impôts à faire. Et puis il faut payer un petit peu tout le monde, le coach, il faut payer le voyage, il faut payer les chambres supplémentaires parce que le tournoi en fait n'en paye qu'une.
Oui. Donc
ça va très très vite en fait. Oui. Quand on est à 2-3 chambres par jour avec deux personnes en moyenne à payer. Je peux vous dire que les chiffres.
Il faut mettre un peu de côté pour ces vieux jours parce que le tennis, ça dure pas toute la vie.
Et voilà. Et en plus, éventuellement épargner pour se dire bon bah quand j'arrête ma carrière, j'ai une forme de sécurité, une forme de tranquillité parce que une nouvelle vie démarre et tous les pays ne sont pas comme la France avec un tournoi du Grand Chelem qui rapporte beaucoup d'argent et donc qui permet d'avoir des reconversions, tout comme moi ici ce soir avec vous.
Ah, message d'honnêteté, merci mon cher Cédric. Allez, on passe à Johanna Chabas sur Roland Garros pour les à côté. Bonsoir Johanna, rebonsoir. C'est une mission découverte que vous avez pour cette édition des Internationaux de France. Roland Garros, l'un des cours a fait place à un terrain de padel. C'est une nouvelle discipline qui rencontre de plus en plus de succès et d'ailleurs vous avez testé pour nous.
Oui, j'ai enfilé ma plus belle tenue de sport pour me rendre à ce terrain temporaire de padel. Ça ressemble à un petit court de tennis, il y a un filet, mais la terre battue a été remplacée par une moquette bleue et des parois vitrées et du grillage entourent le terrain. Alors ça se joue en double, chaque équipe de son côté du filet. La balle doit rebondir une première fois sur le sol de l'adversaire, mais après, elle peut toucher la vitre, le grillage, les poignées de porte. C'est un peu comme du squash et c'est le deuxième rebond au sol qui fait perdre le point. Donc pour essayer, j'ai joué avec Adrien Maigret, le numéro 3 français, rien que ça.
Pas mal.
Nous avons affronté le numéro 12 français, un autre journaliste, et j'ai l'honneur, Julien, de vous annoncer qu'après avoir été mené 5-0, nous avons remporté le match. Wow. 7-5, une remontada. Adrien Maigret a débriefé avec moi notre prestation.
Bah, t'étais parfaite, il y a des spectateurs qui m'ont dit, ils ont cru que c'était toi la championne et que moi je commençais. C'est ça qui est bien au padel aussi, c'est que de toute façon, à tout niveau, on s'amuse, on se régale et justement, les progrès arrivent très vite. Il n'y a pas besoin d'avoir de faire 10 leçons pour commencer un peu à maîtriser le jeu au padel, quoi.
Voilà, et l'idée, c'est aussi de recruter pour la fédération de nouveaux pratiquants.
Oui, parce que le padel, c'est, vous le disiez, c'est de plus en plus à la mode en Espagne, la terre de Rafael Nadal, et il a même dépassé le tennis en nombre de licenciés. Et donc, la Fédération française de tennis veut investir dans cette discipline. C'est la mission de l'ancien tennisman Arnaud Di Pasquale. Pour lui, le padel peut en fait sauver le tennis français.
La courbe de la licence, elle décline depuis maintenant une trentaine d'années quand même. Ça, c'est quand même juste une réalité. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, le padel, qui est cette nouvelle discipline un peu en vogue en ce moment, peut permettre aussi au tennis d'ailleurs, à la Fédé, de se renouveler d'une certaine manière. Ça peut donner une nouvelle impulsion, un nouvel élan. Et c'est très ludique, très accessible. Ça redonne en tout cas beaucoup de vie, je pense, à l'activité.
Et il a une ambition, avoir un jour un terrain permanent de padel ici, à la Porte d'Auteuil. Et à l'avenir, pourquoi pas créer un tournoi de Roland-Garros de padel.
C'est cool le padel, Cédric ?
Écoutez, j'ai essayé une fois. C'est effectivement, l'accessibilité est facile. On s'amuse très vite.
C'est vrai que vous jouez comme un manche. Je plaisante. J'imagine que vous jouez remarquablement bien.
C'est possible, mais ça n'a rien à voir avec la raquette de tennis. C'est une raquette en bois, c'est plus lourd, c'est beaucoup plus court. Et en fait, il n'y a pas les petits coups en toucher. Alors c'est assez tactique avec les murs. On ne peut jouer qu'en double, mais c'est effectivement, ça peut être un bon accès pour éventuellement jouer au tennis. Mais bon, ça quelque part, à part que c'est un court avec un filet, ça a vraiment rien à voir, quoi.
Bien, il nous reste 30 secondes pour la question qui fâche. Il va falloir faire vite.
Eh ben, faut-il se réjouir ou au contraire regretter qu'il n'y ait pas de patronne sur le circuit féminin mondial, Cédric ?
Non. Il faut le faire vite.
Réponse courte. Pourquoi ?
Non, c'est dommage qu'il n'y ait pas, parce qu'en fait, on a toujours besoin de locomotives, de leaders. Alors c'est vrai que on a médiatiquement Serena Williams qui est toujours présente, mais après il y a un petit vide depuis que Sharapova d'ailleurs aussi a arrêté. Et il faut, pour donner envie un petit peu à tous les publics, que ça soit les spectateurs, que ça soit les enfants, les médias, les joueurs de son pays, de pratiquer, tout simplement. Il faut avoir des noms qui portent. Et même pour l'économie d'un tournoi, on voit bien ici qu'on est ravis d'avoir des demi-finalistes un peu moins connus, mais ça parle moins au grand public.
Depuis 2015, une lauréate différente. Hein.
Merci les amis. Merci les amis, on vous retrouve demain,
merci
évidemment, pour Service Pioline, toujours en direct de Roland-Garros. Merci Johanna.
Merci. Julien Bugier.
19h56, dans quelques secondes, le rappel de l'info. Sophie Tussaud, et puis on est triste, Émilie Mazoyer.
Qu'est-ce
c'est la dernière de la saison de musique ce soir.
Ah oui, c'est vrai.
Bon sang de bois.
Mais c'est la joie de partir en vacances. Et attention, on est sur un tapis rouge. On est sur une ambiance Festival de Cannes, mais version musique, puisque ce soir, mon cher Julien, nous passons la soirée avec Indochine. Pour les 40 ans d'Indochine, on vous organise une soirée spéciale, un documentaire tout sonore, inédit, avec des archives qui pour certaines n'ont jamais été diffusées en radio, et puis une interview de Nicolas Sirkis, et enfin un très beau concert avec un quatuor à cordes enregistré ici à notre studio Belmar. Donc ça va être canon et ça commence à 20h.
Bon, il y a Corinne Boulot qui est comme une folle
bien,
là, dans le studio.
Bien, Émilie. j'arrive. Bien. Après les matchs.
Merci Émilie, on sera au rendez-vous. Merci.
Salut,
à tout de suite.
Merci.
Belle soirée à tous, merci de votre fidélité. Demain 18h, Isabelle Millet pour Europe Soir.